La parole des contes avec Anne Wong.
Chers auditeurs et chères auditrices, bonjour, bienvenue à notre émission La parole des contes. Et nous allons bientôt fêter le Nouvel An chinois. Nous avons fêté le Nouvel An selon le calendrier grégorien qui suit l'année solaire où la Terre met 365 jours et 24/22e jours pour faire sa révolution autour du Soleil. Et donc, dans d'autres cultures, on suit le calendrier lunaire chez les musulmans, les hébreux et les chinois. Et cette année, 2026, le 17 février, sera le Nouvel An chinois. À cette occasion, je devais aller à Marseille, justement, célébrer le Nouvel An avec la sitar chinoise. Eh bien, vous n'aurez pas accès à cela, car ce fut annulé. Je n'ai rien vu, rien entendu, et je dirai tout. Et donc, pour annoncer cette Nouvel An chinois, je vous invite à écouter ce magnifique morceau de sitar joué par l'artiste Choi Zhonghui et qui est un morceau qui s'intitule « La main gauche et la lune ». Ceci n'était pas de la sitar antique. La sitar antique, un autre instrument. D'une part, autrefois, il y a très très longtemps, il était joué plutôt par les hommes, et actuellement, ce sont surtout les femmes, et depuis plusieurs siècles. Mais la sitar antique était construite, comme vous allez l'entendre dans le conte qui suit, à l'intérieur d'un tronc d'arbre, et qu'il était éventré et creusé et pour pouvoir créer cette caisse de résonance. Mais c'était un tronc entier, alors qu'à l'heure actuelle, ce sont des morceaux de bois fins et qui sont assemblés. Et donc voici l'histoire de l'antique sitar. Il y avait parmi les précieuses œuvres d'art dont regorgeait la salle du trésor impérial, une sitar antique que plus personne n'osait toucher depuis longtemps. La légende raconte qu'elle fut jadis taillée dans le bois de l'arbre Kiri, qui fut en des temps immémoriaux le roi de la forêt de Longmen, un haut lieu d'énergie selon les maîtres du feng shui. Sa tête altière dialoguait avec le vent et les étoiles, ses racines profondes se nourrissaient du souffle du dragon de la terre. L'esprit de l'arbre était puissant, et l'instrument qu'un magicien luthier des temps anciens tailla dans son bois était farouche, difficile à apprivoiser. Rares étaient les musiciens qui parvenaient à l'accorder, plus rares encore ceux qui pouvaient en pincer des sons mélodieux. Huangdi, le mythique empereur jaune, fut le premier à en jouer et il composa dessus des airs oubliés qui, dit-on, pouvaient chasser les nuages ou apporter la pluie. Dans les siècles qui suivirent, il y eut encore quelques grands maîtres de musique qui purent faire vibrer harmonieusement la cithare sacrée, comme s'ils étaient reconnus par elle. Mais depuis plusieurs dynasties, tous ceux qui avaient essayé d'en jouer n'en avaient tiré que son discordant et pitoyable cacophonie, signe sans doute que le temps des musiciens véritables était révolu. Un empereur se mit en tête de se choisir un nouveau maître de musique en recourant à la cithare qui fit exhumer de la salle au trésor. Il voulait savoir s'il existait quelqu'un dont l'art avait encore une once de magie ou si pareil talent n'était plus que légende d'antan. Il fit annoncer dans tout l'empire les termes du concours. Peu de musiciens se présentèrent aux portes du palais de peur de perdre la face devant le Fils du ciel en personne. Et c'est à reculons que les musiciens de la cour se soumirent à l'épreuve. Ce qu'ils redoutaient le plus se produisit effectivement. Ils ne tirèrent de l'instrument que grincements, crissements, couinements qui firent défiler sur les augustes visages de l'empereur et de la cour toute la gamme de grimaces. Les quelques maîtres de musique venus des quatre horizons de l'empire n'apportèrent pas plus de bonheur à l'assistance. Vint alors le tour d'un musicien errant. L'un de ces baladins en guenille qui jouait pour les oiseaux d'Épinède, les poissons des torrents et les pèlerins dans la cour des temples. Il prit la cithare, caressa longuement la caisse de résonance comme s'il cherchait à apprivoiser un cheval rétif. D'une main, il fit vibrer chaque corde en l'effleurant. De l'autre, l'accorda avec le sourire intérieur de l'amant qui contemple sa bien-aimée. Une mélodie monta doucement. Des vagues de notes cristallines s'élevèrent et s'évanouirent comme le flux et le reflux des flots sur la berge. Alors qu'on était en automne, un vent tiède se mit à souffler dans la salle. Elle embauma le parfum des cerisiers en fleurs. Les visages de la noble assemblée rayonnèrent d'une joie paisible. Les musiciens présents reconnurent le mode Kiao, celui du printemps. La musique s'accéléra soudain et prit la tonalité Che. Un vent chaud fit retentir sous les poutres le chant des grillons. Les poux battirent la chamade, les corps bouillonnèrent de vie. Les dignitaires perdirent toute contenance, dodelinant de la tête et se balançant en cadence, irrésistiblement entraînés par le rythme. Certains se levèrent et se mirent à danser. La musique ralentit et s'appuya sur le ton You. Un vent glacial siffla sa complainte entre les colonnes de marbre. Des flocons de neige voltigèrent dans la salle et se mêlèrent aux larmes de la nostalgie sur les visages de la noble assemblée. La cithare égrena ses dernières notes qui résonnèrent longtemps sous la charpente. Puis elles se fondirent peu à peu dans la vibration du silence, devenue alors étonnamment présente. Après un temps qui parut une éternité, la voix de l'empereur fit sortir l'assistance de son étrange engourdissement. « Félicitations ! Vous avez réussi là où tous ont échoué. Vous serez mon maître de musique. Dites-nous votre nom et d'où vous tenez le secret de votre art. » Le musicien errant esquissa un timide sourire et dit « Mon nom est Peiwo, Majesté. À mon humble avis, les autres ont échoué car ils voulaient faire entendre leur propre musique. Quant à moi, j'ai laissé la sitar chanter les thèmes de son choix. Et je serais incapable de dire si c'est Peiwo qui joua de la sitar ou la sitar qui jouait du Peiwo. Grâce à cet instrument divin, je suis allé jusqu'au bout de mon rêve de musicien et je n'en ai plus besoin. C'était mon seul but en venant ici. » Il déposa la sitar au pied du trône et il franchit la grande porte laquée de rouge et d'or. Quand l'empereur sortit de sa stupéfaction, il donna des ordres pour qu'on rattrape le maître de musique qui s'était choisi. Mais la brume de l'automne avait englouti son ombre. Et c'est ainsi que se termine ce conte. Le musicien a disparu. Et maintenant, allons à la rencontre du jardinier et voyons s'il disparaîtra lui aussi. Le vieux jardinier ne cultivait que des fleurs depuis plus de 50 ans. C'était sa passion. Il ne pensait qu'à elles et leur accordait tant de soins avec tant de compétences que son jardin était connu de toute la province. Un jour, un certain Zhang, fils d'un haut fonctionnaire, vint le trouver avec quelques amis. Ils avaient manifestement bu plus que de raison, aussi leur jardinier leur refusa l'autorisation de s'installer sur son terrain. Il réussit à les persuader de s'en aller. Mais Zhang, tout à coup, arracha quelques pivoines. Le jardinier voulut l'empêcher de continuer. L'autre le repoussa et comme le vieil homme continuait à défendre ses fleurs, Zhang et ses amis se mirent en colère et à coups de bâton, ils détruisirent les plantations et s'en allèrent en chantant, laissant le jardinier désespéré. Le soir tombait quand le jardinier aperçut devant lui une jeune fille surgit on ne sait d'où, comme irréelle, le visage très pâle, portant une longue robe de soie. « Qui es-tu ? » demanda-t-il. « Qu'importe qui je suis, je veux te dire que Zhang sera puni et que tes peines auront leur fin. Nourris-toi seulement de pétales de fleurs. Pratique la vertu et un jour, je viendrai te chercher pour te mener au pays des immortels. » En attendant, ferme les yeux un instant. Il obéit, et quand il les rouvrit, il poussa un cri de bonheur. La jeune fille avait disparu, certes, mais toutes les fleurs de son jardin étaient intactes sur leurs tiges, comme si rien ne s'était passé. Le jardinier, fou de joie, fit le tour des plates-bandes, s'extasiant à chaque pas. Ne pouvant garder le miracle pour lui seul, il courut jusqu'au village pour en faire part à ses amis. De bouche à oreille, la nouvelle se répandit et Zhang l'apprit. Il se rendit en hâte au jardin magique, constata la véracité de ce qu'on disait et s'empressa d'aller chez le juge avec ses amis pour accuser le jardinier de sorcellerie. Le jardinier fut arrêté, conduit en prison. Zhang et ses camarades reprirent alors le chemin du jardin, porteurs de bouteilles et de tasses. « Nous allons faire la fête !» dit Zhang tout joyeux. « Lorsque le jardinier sera condamné, je compte racheter son jardin pour une bouchée de pain. »« Ah, ce sera une belle affaire !» approuvèrent les autres. Et quand elles arrivèrent, sortilège. en poussant la barrière du jardin. Ils virent à nouveau les plantations détruites, les fleurs à terre, écrasées. Ils avancèrent, muets de stupéfaction. Que s'était-il encore passé? Soudain, un ouragan se leva, les arbres bougèrent avec force, le vent fit voler pierres et cailloux des allées, l'air devint glacial, chaque fleur abattue se redressa, grandit, se transforma en génie menaçant. Zhang et ses camarades s'enfuirent épouvantés. Le vent les poussa jusqu'à la fosse à purin de la ferme voisine, où ils tombèrent l'un après l'autre. Les villageois aimaient le vieux jardinier. Le lendemain, au tribunal, chacun le disculpa. Non, il n'était pas un sorcier. Quant à Zhang, il n'osa pas affirmer le contraire, ayant eu trop peur la veille. Si bien qu'on relâcha le prisonnier, désormais il suivit les conseils de la jeune fille. Aperçu juste un instant, et ne se nourrit plus que de pétales de fleurs. Ces fleurs devenaient de plus en plus belles, et lui, il rajeunissait de jour en jour. Le 15 du 8e mois, les villageois accoururent chez lui, attirés par une musique céleste. Ils virent arriver une jeune fille sur un nuage parfumé. Le jardinier s'installa près d'elle, auréolé d'une guirlande composée de toutes les fleurs de son jardin. Le nuage s'éleva dans le ciel et disparut, le vieux jardinier sur le nuage, à côté de la jolie demoiselle. A disparu dans le premier conte. Dans le second conte, le jardinier, devenu un immortel, s'est envolé sur un nuage avec sa belle. Alors, chers auditeurs, chères auditrices, que va-t-il advenir de la fille du magicien et de son amoureux? Voici un conte de l'ethnie Maonan, dont l'artisanat traditionnel consiste au tressage du bambou et plus particulièrement des chapeaux tressés avec des motifs comme des oiseaux, des poissons et des fleurs qui symbolisent le bonheur. Et lorsque le jeune homme est amoureux, il offre un chapeau à l'élu de son cœur en gage d'amour. Voici le conte La fille du magicien. Il y a très longtemps, un vieil homme connaissait toutes sortes de magie. Tout le monde l'appelait le maître de magie. Il avait une fille belle et intelligente. Dès son jeune âge, elle avait appris la sorcellerie auprès de son père. Elle était non seulement une excellente magicienne, mais aussi une brodeuse talentueuse. Cependant, insatisfaite, elle désirait apprendre d'autres métiers de l'artisanat. Dans la montagne voisine, il y avait un jeune tresseur de bambou, orfèvre en la matière. Il s'était spécialisé dans le tressage des chapeaux. La fille du magicien, admirant sa technique, allait souvent s'initier auprès de lui. Le jeune homme lui transmit généreusement tout son savoir-faire, sans réserve. La fille apprit rapidement la technique du tressage et elle souhaitait progresser encore davantage. Comme les jeunes gens passaient leur journée ensemble, leurs cœurs se lièrent. La jeune fille voulait révéler à son père son désir de se marier, mais pudique, elle ne savait comment le lui dire. Et le temps passait. Alors elle se décida à confier cette mission à l'élu de son cœur. Le jeune homme prit son courage à deux mains et partit voir le maître magicien. Après l'avoir entendu, le magicien dit « Bien, bien. Mais je dois vous mettre à l'épreuve de la sorcellerie. » Le jeune homme ne connaissait que des métiers manuels. De sa vie, jamais il n'avait vu un tour de magie. Rien qu'à entendre la demande du père, il perdit courage. La jeune fille connaissait bien son père. Elle échangea un regard rapide avec le jeune homme pour le réconforter et pour qu'il accepte le défi. Le maître magicien continua. « Maintenant, l'épreuve commence. Je vais me transformer en un objet. Si tu peux me reconnaître, tu peux épouser ma fille. » À ces mots, il se faufila dans un grand four et disparut entre les flammes. Époustouflé par cette scène incroyable, le jeune homme resta interdit et implora l'aide de son amoureuse. Elle lui dit « Mais n'aie pas peur, je te protégerai. Va maintenant à la poursuite de mon père. Quand tu verras un charbon noir, tu le prendras avec une pince. » Le jeune homme pénétra dans le four incandescent. Il repéra rapidement un beau morceau de charbon et le prit avec une pince. Et ainsi, il avait réussi sa première épreuve. Le magicien avait un potager regorgeant de ciboules. Il y entra et s'y dissimula promptement. Le jeune homme ne le trouva pas. La fille du magicien lui dit « Observe bien le potager. Arrache la ciboule qui a une forme différente. » Le jeune homme regarda attentivement. Il repéra une grande ciboule dont la taille dépassait celle des autres et l'arracha. Deuxième épreuve réussie. Le maître magicien était satisfait des capacités du jeune homme. Il lui annonça « Ah, maintenant, jeune homme, c'est votre tour !» La fille du magicien était partie broder dans sa chambre. Dès que son père eut le dos tourné, elle incita son amoureux à l'y rejoindre et le cacha dans son ongle long. Le maître magicien le chercha dans tous les coins et recoins, mais en vain. À la fin, il baissa les bras et il s'écria « Jeune homme, sortez maintenant !» La fille du magicien ouvrit la main et le jeune homme apparut dans le tambour à broder en grandissant progressivement et se présenta sereinement devant le vieux magicien. Le vieux magicien était très satisfait. Il admirait sincèrement le jeune homme. Pour finir, il sortit un parapluie et y cacha sa fille, sans que le jeune homme le voie. Il déclara au jeune homme « Ah, vous pouvez rentrer chez vous !» Il le raccompagna et au moment de le quitter, il lui dit « Je n'ai pas grand-chose à vous offrir, seulement ce parapluie. Mais avant d'arriver chez vous, il ne faut ni l'ouvrir, ni vous en débarrasser, quoi qu'il arrive. N'oubliez pas !» Le jeune homme accepta ce parapluie, pesant, et prit joyeusement le chemin du retour. Aussitôt, le temps changea. Le ciel se couvrit, le vent se leva, il plut soudain des cordes, tandis qu'éclataient éclairs et tonnerres. Le jeune homme était tout trempé, mais il n'avait pas oublié les recommandations du vieux magicien et n'ouvrit pas le parapluie. Chemin faisant, il arriva au pied de la montagne devant son village. Soudain, des éboulis se produisirent. L'une après l'autre, les pierres de la montagne effleurèrent son corps et ses cheveux. Les villageois, voyant la scène, s'écrièrent « Jette le parapluie, sauve-toi !» En effet, le parapluie s'alourdissait davantage, si bien que le garçon n'arrivait plus à avancer. À cet instant, la voix de la jeune fille sonna discrètement à ses oreilles. « Ne te débarrasse surtout pas du parapluie. Prends le chapeau en bambou. » Un chapeau apparut immédiatement devant ses yeux. Il le saisit et le mit sur la tête pour se protéger contre les chutes de pierre. Peu de temps après, la pluie s'arrêta et les nuages se dissipèrent. Le beau temps revint. Les chutes de pierre avaient cessé. Le jeune homme rentra chez lui, sain et sauf. Il ouvrit alors le parapluie. Et son amoureuse apparut devant lui, belle et gracieuse. Sous le chapeau en bambou, son minois était encore plus ravissant. Elle dit à son amoureux en souriant, « Mon père a consenti à notre union. Nous nous marions aujourd'hui. » Ils s'embrassèrent joyeusement et vécurent heureux ensemble. Chers auditeurs, chères auditrices, merci d'avoir écouté jusqu'ici. Je vous souhaite bien une bonne semaine au pays des contes ou ailleurs et vous invite à revenir la semaine prochaine car ça en vaut la peine.